Europe 1. Europe 1, Culture Média.
9h30, 11h.
Thomas Hill.
Bonjour à tous, quel bonheur de vous retrouver pour Culture Média et quel bonheur de retrouver les copains Anissa Dadi, Jean-Luc Lemoyne et Julien Pichenet.
Bonjour Thomas.
Ah, faites comme si vous étiez content de me revoir. Vous croyez que je ne vous ai pas entendu avec votre petit manège avec Jean-Pierre Foucault.
Hein. Bonjour Jean-Pierre.
Ça va, ça s'est bien passé cette semaine sans moi?
Bah, super. Vous avez manqué.
On était en larmes tous les matins.
Mais écoutez, votre remplaçant était pas mal.
Il avait un petit peu de métier. Je crois qu'il nous embrasse d'ailleurs ce matin. Alors, il nous embrasse, il nous écoute ce matin. Alors, nous, on l'embrasse.
Ouais,
merci beaucoup, Jean-Pierre, d'avoir aussi bien assuré tout au long de cette semaine. J'en profite pour vous remercier, vous aussi, d'être de plus en plus nombreux à écouter chaque matin Culture Média et à écouter Europe 1 tous les jours. Merci du fond du cœur. Et puis, alors, ce matin, on va parler du retour d'un genre qu'on avait presque oublié, la sitcom. Ce soir, Canal+ lance la sitcom Terminale, emmenée par Jamel Debbouze et Ramzi Bedia et réalisée par Mohamed Hamidi, qui est notre invité ce matin. Bonjour Mohamed et bienvenue ce matin. Et puis dans la deuxième partie, la comédienne Virginie Ledoyen nous rejoindra pour l'adaptation en film du livre Le Mangeur d'âmes d'Alexis Lebsker, qui sera aussi notre invité. Voilà, vous connaissez tout le programme. N'hésitez pas à réagir à cette émission avec le hashtag Europe 1. On est ensemble jusqu'à 11h.
9h30, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Thomas Hill.
Et bien sûr, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors ce matin, Jean-Luc, nous recevons Mohamed Hamidi pour Terminal. C'est sa nouvelle série sur Canal+.
Oui, mais c'est un peu réducteur, Thomas. Mohamed Hamidi, c'est plus que ça.
Ouais.
C'est aussi un ancien prof de l'Université Paris 13, de Bobigny, créateur du Bondi Blog, scénariste, ouais, metteur en scène et enfin réalisateur. Ouais. C'est calculé avec tous ces métiers en cumulé. Normalement, vous devez fêter vos 174 ans cette année. Donc c'est félicitations, vous faites beaucoup moins. Vraiment. On dirait que vous êtes le petit frère de Thomas Hill.
C'est Thomas Hill, pardon. Ouais.
Bien sûr. Vous allez m'apprendre à prononcer votre nom aussi. Je sais très bien comment vous appelez, Thomas Hill. Je regarde tous les matins Jordan Deluxe.
Et on embrasse très fort Jean-Luc Lemoyne qui est très marrant sur Europe 1 avec Thomas Hill. Et évidemment, il fait des chroniques.
Dites Hill, vous.
Hill, ouais, comme vous voulez.
Ouais, comme vous voulez. De toute façon, on s'en fout. Hein, ce qu'il faut retenir.
Jordan.
Non, mais. Oh, il est mauvais celui-là. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout qu'il a dit que j'étais très marrant
sur
Europe 1.
C'est vrai.
Cœur sur toi, Jojo.
Il a raison.
Dorénavant, je ne regardais plus que toi. Surtout que la semaine dernière, il y avait du lourd. Bah, c'était presque une spéciale La Ferme Célébrité. Parce qu'à quelques jours d'intervalle, il a reçu Francky Vincent et Massimo Gardia. Alors avant que l'un de vous dise c'est quoi ce casting, on se calme tout de suite, car je vous rappelle que Francky Vincent sera l'invité de Pascal Praud tout à l'heure.
C'est vrai.
C'est pour ça que Pascal a pris ce matin à la machine à café un expresso bois bandé. Parce que Francky, c'est pas n'importe qui.
3 millions d'albums vendus, Fruit de la Passion, Alice ça glisse, Tu veux mon zizi, il y en a plein d'autres.
Tu pues du cul. Quand ta touffe m'étouffe.
Eh oui, que des rimes riches. Je ne sais pas si vous connaissez bien le répertoire de ce chevalier des arts et lettres, Mohamed.
Non, je ne le connais pas très bien, à part ce que tout le monde connaît de lui. Quoi.
On va voir si les autres aussi sont meilleurs que vous. Pour vérifier, je vous propose tout de suite de jouer à « Qui veut gagner mon Francky ?» Francky Vincent a un répertoire beaucoup plus large qu'on ne le pense, puisqu'il a aussi chanté un texte que n'aurait pas renié Léo Ferré. De quel titre s'agit-il?
J'ai très peur.
Réponse A. Viens presser mon jus.
Non.
Réponse B. Elles sont cool mes bouboules. Réponse C. Moi j'aime scier. Réponse D. Veux-tu que je rote dans ta grotte?
Il y en a un qui est bon. Moi j'ai un petit coup de cœur sur elles sont cool mes bouboules quand même. Je vois bien chanter ça.
C'est une bonne rime et il aime bien ça. Ça swing plus. Donc je dirais ça aussi.
Viens presser mon jus. Il est capable.
Viens presser mon jus. Cool mes bouboules.
Cool mes bouboules, c'est sympa.
Et la réponse en musique.
Ça me scie de savoir que je peux reconcilier. J'aime
scier.
Non. Eh oui, c'était une adaptation assez libre des gens du village. Les village people. Vous étiez pas prêts, je sais.
Il faut qu'il en parle avec Pascal Praud tout à l'heure.
Je pense que c'est un dossier un peu brûlant. Il faut y aller. Alors, quand j'ai reçu chez Jordan Deluxe, tu sens qu'il veut te mettre en valeur. Alors, quand il a parlé de son disque à Massimo Gardia, qui était une reprise à l'époque de Ozone, il nous a rappelé que ça avait été un très gros succès.
Et ça a très bien marché parce que ça a fait 80e place des meilleures ventes de singles de l'année 2004.
Pardon, excusez-moi, mais est-ce que c'est un succès si on te dit que ton disque est 80e au top 50? Pas sûr. C'est un peu comme être deuxième dans un combat de boxe.
Ouais, c'est ça.
Massimo est italien, donc le français, c'est pas sa langue maternelle, mais ça s'entend à peine.
Même à Naples, moi, quand j'étais très jeune, 16 heures, 17 heures.
Voilà, du coup, Massimo a 83 heures aujourd'hui et il doit avoir rendez-vous chez l'ophtalmo à 14 ans. Massimo était, je sais pas si vous vous en souvenez, le fiancé de Françoise Sagan.
Ah bon ?
Eh oui, et il nous donne un conseil pour bien se réveiller le matin.
Françoise Sagan.
Ah, elle était une femme extraordinaire.
Mais vous dites, elle en prenait pour se réveiller, ça veut dire quoi ?
Pour se réveiller, pour écrire aussi. Et puis des mélanges, cocaïne, héroïne.
Il vient toujours au moment.
Sa coke et son héroïne. Toxico.
Et n'oubliez pas, pour une alimentation saine, 5 fruits et légumes, oui, mais pas en ligne parallèle. Oh. Massimo a eu de nombreuses aventures, mais quand on vit de la séduction, c'est pas Julien Pichenet hein, qui me contredira, faut être très ouvert.
Ouais. À l'époque, c'était tellement scandale que quelqu'un de 25 ans, 28 ans, non, j'avais déjà 28, couchait avec une femme de 82.
28 et 82. C'est marrant, c'est les chiffres inversés.
Ah, oui, oui.
Vous imaginez le 69 entre les deux ? Non, personne.
Non.
Du côté de Francky Vincent, ce qu'il n'a pas digéré, lui, c'est quand Jordan lui a dit qu'Aya Nakamura était pressentie pour chanter au JO. Et ce, pour une raison très simple.
Les chanteurs sont comme les voitures. Il y a des Ferrari, il y a des Clio, il y a Twingo. Voilà,
c'est
quoi.
Qui Aya Nakamura ? C'est quoi ?
C'est une Twingo. Hein.
Voilà, alors si on suit son raisonnement, Francky nous explique que si on ne veut pas passer pour des tocards, il vaudrait mieux prendre une voiture italienne qu'une voiture française. Bien joué, Francky. Hein. Mais il a aussi une autre solution.
Alors, si Aya Nakamura, pour vous, c'est un mauvais choix, ils auraient dû choisir qui, selon vous, Francky Vincent ?
Ouais, moi, oui. Moi, ça ferait l'affaire.
J'ai écoutez, franchement, perdu pour perdu. Si on accueille le monde entier au son de Tu veux mon zizi, moi je dis que ça se tente.
On va suggérer ça, effectivement. Merci Jean-Luc Lemoine, qu'on retrouve demain et d'ici là en replay sur Europe1.fr.
Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, l'invité de Culture Média, Mohamed Hamidi, qui co-réalise avec Jamel Debbouze la toute nouvelle sitcom de Canal+, qu'on attend avec impatience. On en parle depuis des semaines. Ça y est, elle est à voir à partir de ce soir. Ça s'appelle Terminal et on en parle dans un instant sur Europe 1. Europe 1, tout de suite.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h tous les jours avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas.
Oui, je reçois ce matin Mohamed Hamidi, réalisateur avec Jamel Debbouze de la nouvelle sitcom Terminal qui débute ce soir sur Canal+.
Et bonjour à tous, c'est Jack, votre commandant de bord.
Quelle est votre position et comment vous ?
Ma position est assise, je répète, position assise.
Je suis habillé classe pour la business class.
On dirait Khaled carrément. Tu sniffes de l'eau écarlate pour être aussi con, quoi.
Moi, je suis né dans les favelas. Je suis un mec de la street à la base.
Terminal, alors on va suivre le quotidien d'une compagnie aérienne super low cost, hein, on peut dire ça comme ça, qui s'appelle Fly Wings, où tout le personnel semble avoir pour point commun l'incompétence. Voilà. Et Ramzy est un commandant de bord qui pense qu'on démarre l'avion avec une clé. Jamel, un agent de sécurité qui aime bien utiliser son taser régulièrement. Et puis il y a autour d'eux toute une galerie de personnages et pas mal d'invités aussi. Vous avez beaucoup d'invités d'importance comme Camille Cotin, Kad Merah, Manu Payet. C'est l'avantage d'un aéroport, ça. C'est n'importe
Mister V, Ratika. C'est vrai que Jamel avait envie de convoquer ses potes hein, pour jouer avec lui sur cette grande arène qui était le tournage de Terminal. Et même si certains au départ étaient un petit peu, enfin en tout cas se questionnaient sur cette série, parce que le retour de la sitcom, ça en a inquiété quelques-uns. Mais dès qu'il venait, par exemple Manu Payet, je me souviens qu'il est venu quelques jours avant son propre tournage. Il était hyper emballé par le process, quand il a vu le public, quand il a vu les studios, etc. Et c'est un super terrain de jeu. Donc je pense qu'on aura pas mal d'invités si on continue avec une saison 2.
Mais on peut comprendre en même temps leur inquiétude, parce qu'il faut dire que c'est quand même assez audacieux ce que vous faites, renouer avec un genre qui a totalement disparu des radars, la sitcom, au moment où tout le monde fait des séries. Pourquoi ce pari ?
C'est vrai que la sitcom, c'est une usine à gaz, en fait. C'est des décors, c'est du public. Alors, Jamel avait envie, moi, ça fait 15 ans maintenant que je travaille avec Jamel, il avait très envie de revenir à la sitcom, il nous en parlait sans arrêt. Il fallait franchement trouver une équipe capable de prendre en main ce genre de projet. Il fallait une chaîne qui suive, et Canal a suivi Jamel dans ce projet pharaonique. Et c'est vrai que ça a quelque chose de très particulier. Nous, avec Jamel, qui faisons à la fois de la fiction et aussi de la scène, c'est pile au milieu, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on a à la fois la structure de la fiction, les scénarios, les caméras, le montage derrière, mais il y a aussi une réaction immédiate.
Oui, c'est
C'est-à-dire que quand vous faites une séquence, elle est tout de suite jugée par le public qui rit en face.
Oui, la particularité de la sitcom, c'est que c'est réalisé en public, donc pour avoir de vrais rires, même si j'imagine que vous vous autorisez à en rajouter au montage quand même.
Non, franchement, on n'a pas rajouté de rire, sauf pour 2-3 séquences qui étaient tournées hors public, parce que parfois on tournait trop tard ou on tournait le matin trop tôt.
D'accord.
Mais justement, au départ, on avait l'intention de tourner à peu près 70-30, 70 en public, 30% sans public.
Ouais.
Mais très vite, les comédiens nous ont dit, c'est pas possible, nous on veut du public tout le temps.
On veut des gens.
Donc parfois, on faisait des séquences dans un coin un peu reculé de l'avion où c'était difficile de voir, même si le public avait des écrans. Non, vraiment, on a vraiment mis le rire du public, qu'on a juste mixé pour pas que ça passe par-dessus les paroles. Mais effectivement, c'est ce qui rythme la série.
Là où vous avez innové, c'est dans la manière de réaliser, avec le gradin du public, donc il y avait 150 personnes, je crois, c'est ça?
À peu près, ouais.
Qui est placé au centre du studio et qui tourne, en fait. C'est le gradin qui tourne pour se retrouver face à chaque décor.
Ah, génial.
C'est ça.
Effectivement, non, ça a été, quand je vous dis une usine à gaz, c'était ça. En plus, c'est vraiment pas facile de faire une sitcom dans un avion. Donc il y avait quand même des modèles d'avion, donc il a fallu découper cet avion en tranches avec le cockpit d'un côté, la cabine arrière d'un côté, pour que le public puisse toujours voir ce qui se passe. Et effectivement, ce gradin qui a été inventé par notre chef déco là, qui s'appelle Christian Maury, il est particulier parce que effectivement le public est toujours en face d'un décor, il ne bouge jamais. C'est un vrai manège, en fait. C'est une expérience particulière et les gens du public étaient très contents de vivre ça.
Et alors, vous le disiez, vous avez recréé une salle d'embarquement, un avion en kit avec un cockpit, une cabine passager. C'est colossal, ça, en termes de décor. On parle d'un investissement de 2 millions d'euros rien que pour les décors, c'est
ça ? Je pense un peu moins, mais c'est vrai que c'était beaucoup. C'est vrai que c'était beaucoup parce qu'un avion, ça coûte très cher, on le sait, à réaliser. Et c'est vrai qu'on a voulu un écran qui soit agréable à jouer pour les comédiens et qui soit agréable à regarder pour le public. Et qui puisse être filmé aussi. Donc il y avait beaucoup de contraintes.
Parce que là, vous avez tourné 12 épisodes d'une vingtaine de minutes. J'imagine que l'idée, c'est d'en tourner d'autres si le succès est au rendez-vous.
Bien sûr. On est déjà en train de développer et d'écrire une saison 2 en espérant qu'on puisse la faire. C'est sûr qu'il y a un investissement de départ pour la prod, pour la chaîne. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a l'écran, une fois qu'on a le décor, une fois qu'on a les personnages, on a envie de tirer le fil. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement.
Et la dernière fois qu'on avait vu une sitcom française, vous vous en souvenez forcément, une sitcom marrante française, c'était H,
bien sûr.
Il y a 25 ans maintenant, avec Jamel, avec Ramzi Bedia, qu'on retrouve dans Terminal. Ça a été le point de départ, H, de cette série.
Forcément, quand on fait une sitcom en France, on pense à H, parce que c'est la sitcom qui nous a tous marqués. C'est aussi très proche de nous, parce que c'était une sitcom dans un milieu professionnel, contrairement à Friends ou à Big Bang Theory, qui sont dans des apparts, dans des colocs. Nous, c'était une sitcom dans le milieu du boulot, quoi.
Ouais.
Sauf qu'effectivement, on a cherché longtemps, d'ailleurs, une arène pour filmer des gens marrants. H, c'était l'hôpital. Nous, on s'est dit, voilà, ça peut être plein de choses. Une arène, ça peut être justement une télé, une radio, un supermarché. Et finalement, ça a arrêté sur l'aéroport, qui est un très bon choix, en fait, parce que l'aéroport, c'est un endroit où tout le monde se croise, où il y a beaucoup de mouvements. Et c'est un endroit où il y a des gens du monde entier, mais il y a aussi des gens de différentes classes.
Ouais.
Parce qu'il y a les bagagistes, il y a les gens de la sécu, il y a le commandant de bord, etc. Donc, c'est quand même une arène très, très sympa pour écrire, pour développer des personnages.
Eh ben, le résultat est à voir à partir de ce soir. Terminal, c'est diffusé sur Canal à partir de 21h. Et je précise que le premier épisode est en clair.
Exactement.
Donc, le premier
épisode est très fort d'ailleurs. Donc, je vous invite à le regarder. Ouais, ouais.
Avec Jamel qui sera dans ce premier épisode. Restez avec nous, Mohamed Hamidi, pour commenter l'actu des médias dans un instant.
Oui, puisqu'arrive le journal des médias de Julien Pichenet. Et ce matin, on va revenir sur cette information que l'on a apprise il y a quelques minutes seulement. Le chanteur Kenji Girac est hospitalisé dans un état grave à Bordeaux. On vous dit tout dans un instant avec le journal des médias sur Europe 1, tout de suite.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec votre invité, le réalisateur Mohamed Hamidi, qui co-réalise avec Jamel la sitcom Terminal à voir ce soir sur Canal+. Et c'est l'heure du journal des médias avec Julien Pichenet.
Et on commence bien sûr avec les audiences et les chiffres à retenir du week-end.
Alors,
Julien.
Tout d'abord, le match des films du dimanche soir, c'est Papy fait de la résistance qui a balayé la concurrence à sa 13e diffusion. Pas mal, hein, 3 100 000 téléspectateurs pour ce film de Jean-Marie Poiret.
J'ai regardé.
D'ailleurs, sera Jean-Marie Poiret, notre invité jeudi.
Ouais.
500 000 téléspectateurs devant Les Animaux Fantastiques sur TF1. Un gros score aussi pour Arte qui diffusait Les Pleins Pouvoirs 2 et avec Clint Eastwood, 1 700 000 téléspectateurs. Sinon, les 12 coups de midi sur TF1 marchent très fort en ce moment. On était proche des 3 400 000 hier, alors qu'un candidat émilien est tout doucement en train de se rapprocher du record de 252 participations détenues par Bruno Urquhart, que l'on recevait d'ailleurs ici la semaine dernière. Samedi, The Voice est de nouveau fait battre par Cassandre. Vendredi, dans audience avec les stars était à 1,2 million derrière Capitaine Marlowe, mais les deux programmes phares de TF1 sont tout de même restés en tête des cibles. Dernier chiffre, celui de la troisième édition de la Grande Semaine, qui a plafonné à 387 000 téléspectateurs samedi en fin d'après-midi sur M6. C'est le talk show d'Ophélie Meunier qui a perdu 20 000 personnes par rapport à la semaine précédente et près de 75 000 par rapport à la première.
Europe 1, le journal des médias.
Et puis on démarre ce journal des médias avec une nouvelle qu'on a appris il y a quelques minutes. L'ancien vainqueur de The Voice, Kenji Girac, est hospitalisé dans un état grave.
Ouais, il a été blessé par balle, il est touché au thorax. Les faits se sont produits cette nuit sur une aire de communauté de gens du voyage du côté de Biscarrosse. Kenji Girac a été transféré au CHU de Bordeaux. D'après l'AFP, son pronostic vital ne serait plus engagé. Kenji Girac avait été révélé par The Voice sur TF1 il y a 10 ans. C'était en 2014. Il avait remporté la troisième saison avant de sortir 5 albums et d'enchaîner les succès.
Et puis, c'est l'événement télé de la semaine. Secret Story revient demain sur TF1 avec Christophe Beaugrand à la présentation.
J-1 avant le retour de cette émission de télé-réalité. On pensait pas forcément la revoir. Elle s'est arrêtée en 2017 après une décennie d'expérience, d'existence sur TF1 et sur NT1. Mmh. C'est demain à 23h30, juste après Koh-Lanta, que vont réapparaître la Maison des Secrets et ses candidats qui devront essayer de garder le leur le plus longtemps possible. Ensuite, à partir de mercredi, ce sera pas le soir à 23h30. Hein. Non, la quotidienne, ce sera tous les jours à 17h30. Secret Story va prendre beaucoup de place évidemment dans la grille de TF1. Lors de la dernière saison diffusée sur TF1, c'était il y a 10 ans, la quotidienne réunissait chaque jour entre 1 million et 2 millions de fidèles en moyenne. Mmh. Est-ce que ce sera le cas encore cette année? J'ai demandé à Rémi Faure, directeur des programmes de flux de TF1, s'il sentait que les audiences pourraient être aussi bonnes cette saison. On l'écoute.
Bah, je crois, il me semble, enfin, j'ai l'impression, après on verra le lendemain du kick-off les audiences, mais j'ai l'impression que c'est la grande tendance du moment, les jeux, la stratégie, le mensonge, les faux-semblants, etc. On voit ça dans énormément de programmes, sur des plateformes, en télévision, etc. Donc, et Secret Story était le précurseur. Je crois que voilà, on est complètement dans l'air du temps et il me semble que le public va être au rendez-vous. On verra bien, mais il me semble que le public va être au rendez-vous.
Après la Starac l'an dernier, donc TF1 relance Secret Story tous les jours à 17h30 sur TF1, mais aussi sur la plateforme TF1+. On en reparlera demain dans le journal des médias et aussi vendredi, parce que Christophe Beaugrand, Thomas Hill sera votre invité.
Oui, et puis Secret Story finit donc par revenir à l'antenne après des années d'attente, d'hésitation. En revanche, pour revoir Interville, il faudra attendre encore au moins un an.
Oui, Anissa, le journal Le Parisien aujourd'hui en France a fait le point hier sur les nombreuses conséquences qu'auront les Jeux Olympiques sur les programmes de France Télévisions. Parmi ces conséquences, le retour d'Interville est repoussé alors qu'il avait été brièvement envisagé cet été.
Ah oui, ça fait plusieurs années qu'on en parle.
C'est repoussé, c'est l'Arlésienne, c'est repoussé chaque année. C'est pas vraiment une surprise. Avec les Jeux, c'est trop compliqué en termes d'organisation, explique un salarié de France Télé. Autre conséquence, Fort Boyard ne sera pas diffusé pendant la durée des Jeux Olympiques cet été. Il y aura toutefois le même nombre d'émissions que l'été dernier, donc il est probable que Fort Boyard continue à la rentrée de septembre. Idem pour la carte au trésor sur France 3. Par ailleurs, les JO auront aussi des conséquences pour les autres chaînes. TF1 lancera très peu de nouveautés cet été, pour éviter évidemment de griller tes cartouches. Il y aura bien Ninja Warrior cet été, mais seulement 2 numéros. Du côté d'M6, en revanche, on pourrait prendre un petit peu plus de risques face à cette terrible concurrence des JO. Il y aura une nouvelle saison des traîtres, mais pas que. Nous mettrons à l'antenne plusieurs projet inédit, indique la chaîne sans en dire plus.
Et puis on a appris ce week-end que Pékin Express changerait de jour de diffusion pour la finale. Ce ne sera pas le jeudi, mais le samedi.
Alors je vous explique. Suite à la victoire de l'OM en quart de finale de la Ligue Europa de football, M6 voit un petit peu plus clair. Vous savez que la Ligue Europa, c'est le jeudi sur M6, tout comme Pékin Express. Alors il faut s'arranger. On retrouvera l'Olympique de Marseille les jeudis 2 et 9 mai pour leur demi-finale face à l'Atalanta Bergame. Carton d'audience en vue, parce qu'on était à 2 800 000 jeudi soir, donc ça sera encore plus fort pour les demi. Et la demi-finale de Pékin Express, elle, sera proposée ce jeudi, dans 3 jours, jeudi 25. Quant à la finale, eh bien, elle ne sera pas diffusée après le foot, le jeudi 16 mai. Pourquoi? Parce que le 16 mai, TF1 lance la 4e saison d'HPI.
C'est trop dangereux, ça.
C'est un carton. Le premier épisode de la saison 3 l'an dernier avait fait un score colossal, plus de 8 millions de téléspectateurs. M6 va donc jouer la prudence et préfère diffuser la finale de Pékin Express un samedi. Ce sera le samedi 4 mai. Le samedi, il y a quand même de la concurrence. Il y a The Voice.
The Voice,
le 4 mai, on aura un match intéressant à suivre entre The Voice et Pékin Express.
vous expliquez bien, parce que c'est pas simple
Mais on a suivi. On sait aussi que ça va être compliqué pour Pékin Express, visiblement. Et puis les audiences sont mauvaises. Résultat, TF1 déprogramme la fin de la saison 2 de Dr Bash.
Ouais, on se pose pas de questions. Du côté TF1, quand ça ne marche pas, la deuxième saison de cette série médicale canadienne est diffusée depuis le mercredi 20 mars sur TF1, deuxième partie de soirée, après la série italienne Doc, qui ne cartonne pas non plus. Ça marche pas fort donc pour Dr Bash. Mercredi dernier, on était à 588 000 lors du premier de ces trois épisodes. À peine plus de 7% de part d'audience. La direction des programmes de TF1 n'a pas traîné pour prendre une décision. Dr Bash disparaît de la grille dès cette semaine, alors qu'il restait 9 épisodes de la saison 2 à diffuser. Pour ceux que ça intéresse, il faudra aller sur TF1+. Il y a quand même une solution pour les voir, ces épisodes. Sur TF1, mercredi soir, il y aura des rediffusions. Des rediffusions de New York Unité Spéciale. Ah,
vous aviez regardé, vous, Dr Bash?
Non, malheureusement, j'ai pas vu.
Personne dans ce studio.
Je ne vois pas de compte.
C'est trop tard.
Ça va manquer à personne, visiblement. Bon, et puis une dernière petite info. Le magazine Têtu, qui était en difficulté, va changer de propriétaire.
Oui, ce magazine né au milieu des années 90, qui s'intéresse aux questions LGBTQ, est placé en redressement judiciaire depuis l'automne. La Fondation, le Refuge et le groupe SOS s'étaient déclarés volontaires pour le reprendre. Eh bien, cette œuvre de reprise vient d'être validée par le tribunal des commerces de Paris. L'équipe du magazine devrait rester inchangée, tout comme l'identité du magazine, assurent les associations repreneuses.
Merci beaucoup, Julia, pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter Média, inscription gratuite sur europe1.fr. Un grand merci également à Mohamed Ali d'être venu ce matin au micro d'Europe 1 pour parler de cette série Terminale qui débarque ce soir sur Canal+ à partir de 21h. Merci beaucoup.
Et premier épisode en clair. Premier épisode où il y a Jamel. Hein, je vous dis ça, je dis rien. Culture Média, Thomas continue après les infos de 10h.
Oui, on sera avec Virginie Ledoyen qui joue dans le film Le Mangeur d'âme, adapté du deuxième roman d'Alexis Lebsker, qui sera avec nous aussi.
Et puis notez que cet après-midi, alors ça c'est fait pour vous Thomas Hill et pour une grande partie de nos auditeurs, l'équipe de Sophie et les copains vous propose de commencer la semaine en musique avec une émission spéciale cet après-midi. Ah. Émission musique, il y aura du classique, du rock, du jazz, du disco, de la chanson française.
Ah,
les années 80, 90, 2000, vous allez chanter à tue-tête et vous amuser avec Sophie Davant qui en plus reçoit Nicoletta.
Ça va
quand même être du grand classique. Sophie et les copains, spéciale musique, c'est cet après-midi de 16h à 18h sur Europe 1.